sera question de la vénérable mère Émilie Gamelin, fondatrice des Sœurs de la Providence. Vous verrez que c'est une femme fantastique, une Montréalaise extraordinaire, et ça vaut vraiment la peine de la connaître et d'apprécier cette femme étonnante, exceptionnelle. Je profite de cette 300e émission pour remercier tous les auditeurs qui m'ont écrit depuis le début du mois ou qui m'ont téléphoné pour m'encourager à continuer, et tous ceux qui m'ont offert des fleurs et même du sucre à la crème et des légumes de leur jardin, des messes et de l'aide aussi, des conseils, des suggestions. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Mère Émilie Gamelin est vraiment une femme exceptionnelle. Je vous donne quelques détails sur sa vie au préalable. Elle est née en 1800 à Montréal. Elle s'est mariée à 23 ans, Jean-Baptiste Gamelin, d'où lui vient ce nom de Gamelin, car son nom de naissance est Tavernier. Peut-être qu'on hésitait à appeler une sœur et une fondatrice Tavernier, mais non. Et puis, les 3 années après son mariage, elle a eu 3 enfants, qui sont malheureusement décédés. Son époux aussi est décédé en 1827, l'année suivante. Donc en 4 ans, 3 enfants et la perte de son mari. Et là, elle est demeurée seule, veuve, mais elle s'est mise au service de la misère humaine. Pourtant, elle était de la classe, disons bourgeoise. Elle avait tout pour vivre très bien. Elle avait des propriétés, etc. Et elle a finalement, comme un peu malgré elle, fondé cette communauté, les Sœurs de la Providence, auxquelles nous devons tant. Elle a fondé cette communauté à 43 ans, donc en 1843. Et en peu d'années, elle est vraiment parvenue au sommet de la charité. Et elle est décédée à 51 ans, donc en 1851. Et c'est en 1981 qu'on a introduit sa cause de béatification. En 1995, donc il y a 1 an, le maire de Montréal, Pierre Bourque, accompagné de la porte-parole de la communauté Sœur Thérèse Frigon, ainsi que du cardinal archevêque de Montréal, Monseigneur Jean-Claude Turcotte, ont béni une nouvelle place à Montréal, la place Émilie Gamelin. C'est que durant près de 120 ans, l'asile de la Providence, puis la fameuse œuvre de la soupe, les gens qui ont... Moi, je me souviens bien, on parlait de ça, l'œuvre de la soupe, quand j'étais jeune. C'était très important. Eh bien, ces deux œuvres, l'asile de la Providence, qu'elle a fondée, que Mère Gamelin a fondée, et la fameuse œuvre de la soupe, ont eu pignon sur rue, n'est-ce pas, dans le quadrilatère très, très connu et très populaire, formé par les rues Sainte-Catherine, Saint-Hubert, Berry et de Maisonneuve. Donc, depuis le 25 septembre 1995, eh bien, l'endroit se nomme Place Émilie Gamelin, en l'honneur de la fondatrice des Sœurs de la Providence. Pour rappeler, comme on disait dans le journal La Presse, c'est rare qu'il y ait des articles un peu religieux dans les hauts journaux, il y a des articles surtout positifs. Eh bien, on raconte, c'est André Pépin, le journaliste, raconte que la soupe chaude y a été servie de 1843 à 1862. Les pauvres et les itinérants y ont trouvé refuge, particulièrement aux époques les plus difficiles du développement de Montréal. Et durant la grande crise économique, je suis né en 26, moi je m'en souviens de cette crise économique, commencée en 1929, le climat de tristesse qui régnait, alors l'œuvre a répondu difficilement à la demande à ce moment-là, raconte André Pépin. Et il résume la vie de cette femme extraordinaire, Mère Gamelin, veuve sans enfant, la fondatrice des Sœurs de la Providence, a consacré de nombreuses années de sa vie à venir en aide aux démunis de Montréal, en ouvrant des refuges dans le centre-ville, le long de la rue Sainte-Catherine, par exemple. C'est d'ailleurs en secourant les malades qu'elle meurt d'une épidémie de choléra en 1851, à l'âge de 51 ans. L'œuvre qu'elle a accomplie, dit le maire Bourque, et qui se perpétue dans une dizaine de pays, mérite notre plus haute estime. Quant au cardinal Turcotte, au cours d'un bref entretien, il a indiqué pour sa part, dit le journaliste, que l'œuvre charitable des Sœurs de la Providence se poursuit. Oui, ça se poursuit. Mais que cet exemple aussi, d'autre part, a contribué à multiplier ce type d'intervention. Et le cardinal Turcotte ajoute, cet incroyable nombre de refuges et d'œuvres de la soupe qui existent à Montréal et qui sont le fruit de ceux qui suivent Jésus-Christ au sein de l'Église catholique. C'est moi qui ajoute ça. Les difficultés économiques des gens ne sont pas toutes évidentes, dit le cardinal. Mère Gamelin est née dans cette ville de Montréal qu'il faut bien considérer, il faut bien rappeler ça, que c'est dans le cadre du Canada de l'époque, en 1800, donc pas longtemps après la conquête, dans le cadre aussi de l'Empire britannique. Et cette femme, qui est née avec le 19e siècle, est née aussi avec la période de la révolution industrielle, puis de ce qu'on appelle le libéralisme économique. Cette espèce de... On y entre encore dans ce libéralisme économique de façon assez violente actuellement, hein? Et c'est pas facile pour tout le monde. Et le Canada, comme dit un texte ici que j'ai devant moi, et dont je m'inspire, et qui est intitulé « Mère Gamelin, femme de compassion », c'est le rapport de la Commission historique de Montréal, publié en 1983, eh bien, on raconte que, conquis par les Britanniques, bien, le Canada était soumis à des plans qui venaient de Londres. Le Canada exportait des fourrures, du bois équarri, du blé, d'autres produits. Puis la Grande-Bretagne, qui s'industrialisait très rapidement, bien, lui envoyait ses produits manufacturés. Bien oui, nous, on envoyait la matière première et nous retournait les produits manufacturés qu'il fallait acheter. Cette colonie, qui était le Canada, qui était surtout français encore à l'époque, oui, nous étions majoritaires dans ce pays, était pour la métropole un marché. Et la colonie, bien, ne devait pas lui faire concurrence. Aussi, bien, l'industrialisation de Montréal a pris un large retard. L'industrialisation des îles britanniques a créé bien des problèmes, bien du chômage. Il y avait une politique agricole qui était inhumaine. Et les gens d'Écosse et d'Irlande, surtout, ont immigré ici. Il y a eu des famines épouvantables. Et il y a eu des maladies contagieuses. Et ça a frappé Montréal, c'est en 1832, quand Mère Gamelin avait 32 ans, donc 1834, 47, 49. Et les rescapés, souvent des enfants, ont grossi le nombre des pauvres, et la majorité était des Irlandais catholiques, dont nous, Québécois de langue française, nous sommes tellement occupés. Et les institutions religieuses ont prodigué leur pitié, leur secours, dit le rapport. Il y a même eu un certain nombre de protestants, raconte-t-on, qui, devant la charité des Sœurs de la Providence, ont décidé de devenir catholiques. Je vous fais grâce de tout ce qu'on pourrait dire sur le panorama sur lequel s'est développée l'œuvre de Mère Tavernier, Mère Gamelin, qui s'appelait au début Émilie Tavernier, donc. Elle était de la troisième génération des Taverniers, puis de la cinquième des Maurice par son père, par sa mère. Sa mère était une Maurice. Antoine Tavernier puis Marie-Joseph de Maurice ont été mariés à Montréal le 25 août 1777. Ils faisaient partie de la bourgeoisie canadienne-française de Montréal, aux aisances modestes. Ils étaient liés à plusieurs familles même, qui seront en vue à Montréal dans le cours du 19e siècle. Monsieur Tavernier était parent des Giroirs, qui étaient fameux par sa mère. Son beau-frère était un Perrault. Les Fabre, les Cuvilliers, les Nolan ou Nolan étaient des alliés des Perrault. C'est eux qui vont élever d'ailleurs la petite qui sera orpheline très jeune. Et le couple Tavernier a donc eu de 1778 à 1800, en 22 ans, 15 enfants. 9 sont morts avant l'âge adulte. Les survivants ont été Antoine, Joseph, Joseph, Julien, François et Émilie, qui est la 15e enfant. Elle est née la dernière, le 19 février 1800. À la date de sa naissance, les parents d'Émilie Tavernier cultivaient une terre appelée Providence. C'était déjà bon signe. Et la terre s'étendait de la rue Sherbrooke à la rue Bernard, entre la rue Saint-Urbain puis l'avenue du Parc. Et c'est là que l'Hôtel-Dieu sera plus tard bâti. La maison s'élevait à l'angle des rues Mont-Royal et Jeanne-Mance, dont il est en question à cause d'un McDonald's à peu près ces jours-ci. Et c'était alors la pleine campagne. La famille vivait dans une atmosphère chrétienne. C'était très vivant. C'était vraiment comme les anciennes familles de Montréal. J'ai un peu connu ça. Et la mère d'Émilie a initié sa fillette toute jeune à sa compassion pour les pauvres. Émilie Tavernier, ou Gamelin si vous préférez, n'a que 4 ans quand sa mère est morte, le 11 février 1804, et le père est obligé de la confier à sa sœur, Mme Joseph Perrault, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et Mme Perrault était une femme de grande froid, mais elle prenait part aux offices de charité qui étaient exercés par les dames de Montréal. Je me souviens, ma mère faisait partie comme ça de groupes de dames, on appelait ça comme ça, et qui s'occupaient d'œuvres charitables, mais elle faisait un bien immense. On n'a pas idée comment ces bourgeoises travaillaient et se dévouaient pour les pauvres durant la crise des années 30. Et un autre décès dans sa famille, celui de l'aîné et parrain d'Émilie, Antoine, âgé de 28 ans, la frappe en plein cœur. Un deuxième frère, Joseph, meurt à 26 ans en 1811. Le père meurt, lui, à 60 ans en 1814. Et une sœur, Joseph, qui est veuve de Joseph Guilbeault, et âgée de 35 ans, meurt encore en 1815. Imaginez, la cousine Agathe Perrault perd son mari, le lieutenant Maurice Nolan, à la bataille de Sackett's Harbor. Une bataille en 1813, mais oui, c'est quand les Américains considéraient que nous devions nous unir à eux pour participer à leur indépendance des Britanniques, et nous rallier et agrandir leur territoire. Et cette jeunesse, ponctuée de deuil, mais a fermé l'âme d'Émilie. Elle a fait des études littéraires qui étaient orientées vers la préparation à la première communion, qui se faisait un peu tard. Mais on sait avec certitude qu'elle a été confiée aussi à la congrégation Notre-Dame par sa tante. On ignore de toute façon à quel moment précis, pour combien de temps. Et puis on sait qu'elle a fait sa première communion à l'âge de 10 ans. Elle a été confirmée quelques mois plus tard. Et ses écrits à Mère Gamelin révèlent une formation intellectuelle moyenne. Bon, chez les filles bourgeoises de son époque. Hein, l'enseignement était assez dur à l'époque. Hein. Il n'y avait aucun contact, pour ainsi dire, avec la France. Et nous étions perdus, nous avions perdu notre élite, une grande partie de notre élite qui était retournée en France. Nous étions comme un petit peuple abandonné, mais malgré tout, très important au Canada, puisque nous avons été longtemps après la conquête, les plus nombreux. Son éducation était excellente à cette petite Émilie. Et des biens de ses parents ne lui restaient qu'environ 68 $, dit-on. Son frère François était son tuteur. Il lui gardait cette somme pour sa majorité. Mais son frère François perd sa femme en 1818, et Émilie, à 18 ans, va tenir sa maison 6 mois durant. À cette occasion, la voit mettre en œuvre ce qui sera le charisme de sa vie, c'est-à-dire la compassion pour les nécessiteux. Elle met à profit la liberté puis l'autorité que lui donne son occupation. Cette jeune fille de 20 à 22 ans se révèle sérieuse, équilibrée puis attentive. Elle est dévouée. Elle a déjà un beau caractère. Elle est vraiment débrouillarde. Elle est parfaitement normale. Hein? Elle participe avec intérêt et plaisir, d'ailleurs, à la vie sociale, sans se laisser emporter quand même par les tourbillons. Elle conserve un jugement sain. Et le mariage demeure à ses yeux la vocation normale. Et puis, cette période, bien, se clôt par une inspiration, à un moment donné, de se joindre aux Sœurs Grises, parce que je me souviens que même, moi-même, quand nous étions jeunes, presque tout le monde pensait à rentrer, non pas chez les Sœurs Grises, mais chez les sœurs ou chez les frères ou les prêtres, hein, les pères de différentes communautés. Mais la pensée de la vie religieuse ne fait pourtant qu'effleurer l'esprit d'Émilie, Émilie Tavernier. Hein, et le 5 avril 1822, elle perd sa mère adoptive, Madame Joseph Perrault, à laquelle elle était redevable de tant d'exemples de charité. Et alors, tout se fait finalement qu'elle épouse Jean-Baptiste Gamelin en 1823. Et puis, comme je vous ai dit, elle a trois enfants qui meurent les uns après les autres, malheureusement. Et son mari meurt finalement. Il meurt le 1er octobre 1827. Et il lui laisse un exemple de vie chrétienne et charitable. Il lui donne un enfant adopté, un malade mental, dont elle devra s'occuper, et qui s'appelle Daudet. Et Mère Gamelin va prendre soin de lui et de la mère de cet enfant jusqu'à leur mort. Et nous verrons tout à l'heure comment s'est développé en elle, peut-être un peu en grande partie, à partir de ce petit Daudet malade mental, ce cœur immense qui a enveloppé Montréal et l'univers entier finalement. Mère Gamelin, ou Madame Tavernier si vous préférez, Madame Gamelin, de son nom de son mari, à la suite de tous ses deuils, au lieu de s'écraser comme auraient fait bien des femmes, perdre ses enfants, son mari, ses frères, sa sœur, etc. Non, elle reste debout. Elle demeure libre de se livrer entièrement au soulagement des misères. C'est comme ça qu'elle considère ça. Alors elle participe activement à toutes sortes d'organisations paroissiales. Oui, des organisations paroissiales de piété, de charité. Rien de mal à ça, au contraire. Si dans nos paroisses c'était plus vivant, peut-être que ce serait encore mieux, hein? Alors elle se révèle de plus en plus comme l'inspiratrice et la cheville ouvrière de ce qu'on appelle la Société des Dames de Charité. Et cet organisme avait été fondé le 18 décembre 1827. C'était tout récent. Et si on a fondé ça, c'est à cause de l'extrême misère, disent les textes, que souffre par le manque de nourriture un très grand nombre de pauvres de cette paroisse de Montréal. Il y avait une paroisse à Montréal à l'époque, c'était Notre-Dame. Alors, cet organisme compte dès le début une cinquantaine de membres. La plupart sont recrutés dans une confrérie qu'on appelle la Sainte Famille. Pensez-y ce que ça veut dire, la Sainte Famille. Il faudrait bien qu'un jour je fasse une émission là-dessus. Cette famille qui est attaquée de toutes parts, la famille, nos familles. La baronne de Longueuil, qui était très connue à l'époque, en était la première présidente, et Madame Gamelin, elle, y entre dès le commencement, elle devient en peu de temps la plus active, la plus inspirée des collaboratrices. Elle était déjà bien engagée quand la mort lui avait enlevé son malade mental, Daudet, qui était l'héritage de son mari, qu'elle aimait, et qui a retrouvé au dernier moment tellement il a été aimé par Mère Gamelin, Madame Gamelin, qu'il a retrouvé au dernier moment cette lucidité pour la remercier de toute sa tendresse et du dévouement qu'elle avait eu pour lui. C'est vrai que c'est comme ça les gens qui sont des malades mentaux, légers ou un peu. Ils ont une reconnaissance extraordinaire, croyez-moi. Et un trait d'Émilie Gamelin a été sa capacité d'identifier les misères les plus pressantes, n'est-ce pas? Puis, quand elle les voyait, là, elle y allait, pour les guérir. Le rétrécissement du cadre familial qu'on observe depuis ce siècle, le 19e siècle, à cause de l'économie capitaliste, n'est-ce pas, qui s'accentue d'ailleurs avec elle, aujourd'hui nos familles, pour la moitié, sont brisées. Eh bien, et qui survient surtout dans les villes, hein, qui pratiquent le commerce, l'industrie, etc., ça réduit les femmes isolées et vieillies à un abandon épouvantable. Et c'est ce phénomène social qui apparaît alors à Montréal, et Mme Gamelin a été la première à prendre conscience, vraiment, jusqu'au fond de son cœur, de cette détresse. Elle ouvre dès le mois de mars 1830, donc, au bout de 3 ans, un asile pour les femmes âgées et infirmes dans le bas d'une maison de la rue Saint-Laurent. Ça lui avait été prêté par le curé de Montréal. Elle y accueille les femmes nécessiteuses, les visite, leur procure les secours spirituels et temporels, puis elle leur dresse un petit règlement de vie. Alors là, elle quitte sa maison, car elle avait une maison, évidemment, sur la rue Saint-Antoine. Elle va habiter chez sa cousine Nolan, près de l'asile, pour être plus près. Elle vend une partie de son patrimoine. Oui, elle vend une partie de son patrimoine pour soutenir l'œuvre. Elle se fait mendiante aussi. Elle se fait même servante pour ses protégés. Oui, une servante. comme le Christ aux pieds de ses apôtres qui leur lave les pieds. Elle est insouciante des railleries et des contradictions, qui sont évidemment le pain quotidien quand on se dévoue comme ça. Que de gens se moquent de nous quand on fait des choses comme ça. Comme c'est vrai. Et vers 7 ans, elle refuse une proposition de mariage qui aurait pu lui enlever tous ces problèmes-là. Elle aurait pu aller s'asseoir dans une belle résidence. Tricoter, faire du petit point et attendre la mort. Mais non. Elle va se consacrer au service de ses malades, de ses pauvres femmes. Et elle est forte de l'approbation puis de l'estime que lui témoigne l'évêque auxiliaire de Québec à Montréal, car c'était comme ça, à ce temps-là, il n'y avait pas d'évêque à Montréal, c'est Mgr Jean-Jacques Lartigle, qui était évêque de Québec à Montréal. Et déjà, comme l'œuvre était tout à fait à l'étroit sur la rue Saint-Laurent, ben on a déménagé. En 1832, dans 2 maisons de la rue Saint-Philippe, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé la rue Saint-Philippe, qui était 2 maisons qui étaient louées par Madame Gamelin, et qui cette fois a pris un logis avec ses protégés. Elle s'est mise à habiter avec ses femmes. Elle leur a communiqué sa dévotion à Notre-Dame des Douleurs, qui est une dévotion très importante dans le cœur de Mère Gamelin. Notre-Dame des Douleurs, c'est une belle dévotion qui attache, disons, une façon de regarder les choses, voir ce qu'a souffert Marie pour compatir à sa souffrance et ouvrir notre cœur avec elle, car Marie n'a jamais fermé son cœur. Cette dévotion a façonné l'esprit de toutes ses œuvres. Alors, comme elle habitait avec ses protégés, Madame Gamelin s'impliquait toujours plus dans le soin des vieilles femmes. Déjà, à la rue Saint-Laurent, elle avait trouvé une veuve bénévole, une dame Ouellette, pour diriger et assister ses protégés. Mais cette dame a été remplacée, en 1832, par une infirme. Imaginez, une infirme encore capable de rendre des services. Que c'est beau, hein? Et les responsabilités et les occupations de Mme Gamelin croissaient sans cesse. Et la même année, eh bien, il y a eu une épidémie de choléra qui a affligé Montréal. Elle a recueilli à l'asile 6 enfants d'une même famille devenus orphelins à cause du choléra. Sa réputation se répandait. Les sulpiciens lui ont confié la distribution de leurs aumônes annuelles. En 1835, son institution abritait déjà 20 femmes. Oui, c'est beaucoup de travail, 20 femmes, croyez-le. Faut voir les gens qui s'occupent des malheureux. S'occuper de 20 personnes. Un sulpicien visitait régulièrement la maison, et c'est au mois d'août 1835 que la future sœur Saint-Vincent, qui lui fera tellement de chagrin, Madeleine Durand, va entrer au service de l'asile. Elle va se charger quand même des besognes les plus variées et les plus humbles aussi. C'était une femme quand même de dévouement, mais qui va être terrible. L'œuvre était connue et appréciée des bourgeois de Montréal. Beaucoup s'y intéressaient. Et en mars 1836, le fameux Olivier Berthelet, je vous prépare une belle émission sur ce laïc extraordinaire et si généreux du siècle dernier, a donné à M. Saint-Pierre une maison qu'il possédait dans l'est de la ville. Mme Gamelin va aménager, elle y transporte le 3 mai 1836, cette Madeleine Durand, qui vient de se joindre à elle, et ses femmes âgées de la rue Saint-Philippe. Et c'était la Maison Jaune. L'œuvre de la Maison Jaune va continuer d'être soutenue par des quêtes, mais aussi par l'activité organisée de ces 24 vieilles qu'elle fait participer. Elle ne les laisse pas assises comme ça. Elle les rend participantes. C'est formidable. Et partout dans la ville, c'était un concert d'éloges, de sympathies, de visites. Mais les frais sont grands pour organiser tout ça. Madame Gamelin vend une de ses propriétés, elle en a plusieurs, donc une femme bourgeoise assez riche. Sur les entrefaites éclate la fameuse rébellion, la révolution, si on veut, de 1837-1838, Canadiens tant francophones qu'anglophones, contre ce pouvoir exagéré de Londres. Et les prisons regorgent bientôt de suspects, un peu comme en 1970, des hommes en vue, qui sont soumis au régime des prisons de ce temps. La charité de Madame Gamelin se répand parmi eux. Elle était la principale de quelques dames qui ont été admises à visiter les prisonniers pour les secourir. Les geôliers, tout de même, se montraient de la plus grande sévérité, c'était sans doute des soldats anglais. Et ces hommes humiliés, puis leurs familles, dont les semaines douloureuses ont été éclairées de cet unique rayon de douceur qui venait du cœur de Mère Gamelin, vont redire plus tard à l'envi, et longtemps d'ailleurs, leur reconnaissance à cette bienfaitrice exceptionnelle. Au milieu de ses occupations, Mme Gamelin était atteinte des fièvres typhoïdes. Elle est à deux doigts de la mort, mais heureusement, elle revient à la santé, et elle attribue cette guérison à l'intercession de la Vierge des douleurs, comme elle l'appelle. Revenue à la santé, Mme Gamelin, veuve, dont le nom était souvent cité dans les journaux, ne confine pas son attention à ces pauvres vieilles. Elle continue ses visites aux prisonniers, qui languissent toujours dans les geôles de Montréal. Et le nom de Mme Gamelin était sur toutes les lèvres. Et à la mort de Mgr Lartigue, l'évêque de Québec à Montréal, le 19 avril 1840, elle perd un protecteur et un grand conseiller. La Maison Jaune contient en 1840 32 vieilles. Les journaux louent sa bienfaisance. Et le nouvel évêque, qui prévoit un voyage en Europe, Mgr Bourget, propose de lui rapporter un tableau de Sainte-Élisabeth de Hongrie, son émule. Vous savez, Élisabeth de Hongrie qui a été si bonne et si généreuse. Et le 6 novembre 1841, elle achète au nom de la corporation à une veuve amenée un emplacement de 150 pieds sur la rue Sainte-Catherine, tout près de la rue Saint-Denis. Et c'est là que, comme la vieille maison jaune ne suffit pas, eh bien, on s'installe et on pratique la charité d'une façon fantastique. Et la première pierre est posée le 10 mai 1842, par qui? Par l'évêque de Toronto qui est nouvellement consacré, Mgr Michael Power, et nous verrons plus tard l'expansion de l'œuvre magnifique de Mère Gamelin. Alors Montréal, d'un bout à l'autre, c'est une pas une très grande ville à l'époque, mais c'est quand même d'un bout à l'autre, s'est pris d'affection pour l'œuvre de la Providence, fondée par Mme Émilie Gamelin. Il voit toutes les vertus chrétiennes qui s'exercent dans cette œuvre. Mgr Bourget, donc, le nouvel évêque, n'a nullement caché son intention d'appeler les filles de la charité de Saint-Vincent-de-Paul, il sera question de Saint-Vincent-de-Paul dans quelques jours, les filles de la charité que Saint-Vincent-de-Paul a fondées, qui sont très nombreuses en France, de les appeler donc à la direction de cette œuvre, puisqu'elles ont de l'expérience, croit-il. Alors, sans arrière-pensée, très humblement, très consciemment, Mme Gamelin, ses coopératrices, se dévouent à la réalisation de ce projet de leur évêque. Elles sont prêtes à agir sous la conduite de ces religieuses françaises, qu'elles ne connaissent pas parce qu'elles sont séparées de la France depuis déjà un bon bout de temps. Il n'y a plus de Français, ou à peine, très rare. Le père Timon, qui est supérieur des Lazaristes, l'autre communauté fondée par Saint-Vincent-de-Paul, vient visiter l'asile. Il trouve, dans cette veuve extraordinaire, une autre demoiselle Legras. Il faudrait que je vous parle un jour de mademoiselle Legras. Faisant fleurir au Canada, quoi, le véritable esprit d'humilité, de charité de Saint-Vincent-de-Paul. Alors, pendant qu'on lui construit une maison, qu'elles ont consenti à habiter, les filles de la charité rencontrent une autre occasion de pratiquer leur dévouement, quelque part ailleurs. Alors elles font informer l'évêque qu'elles ne seraient pas disponibles pour Montréal, elles vont ailleurs. Mgr Bourget met du temps à croire qu'il avait fait tout ce travail pour rien. Et c'est ainsi que lui vient la pensée de créer dans son diocèse ses propres filles de la charité, qui vont être attachées si possible à celles de Monsieur Vincent dans leur esprit, et qui seront imbues, donc, du grand esprit de charité de M. Vincent de Paul, de Saint Vincent de Paul. Et Mme Gamelin, pour sa part, n'a aucune inclination pour la vie religieuse, elle. C'est une veuve dans le monde, c'est une femme de la bourgeoisie, et puis, c'est un moment crucial dans sa vie, hein, c'est pas facile. Cette femme qui a livré toute sa vie pour combattre la misère, et pour travailler auprès des petits,
et qui, de toute sa générosité, a voué tous ses moments depuis 15 ans à édifier une œuvre qui lui vaut l'admiration puis les applaudissements d'une ville entière. Et puis, est-ce qu'elle n'a pas craint de voir toute son œuvre glisser de ses mains entre les mains des sœurs de Saint-Vincent-de-Paul? Or, elle est bien consciente des intentions de son évêque, Mgr Bourget. Vous savez que devant la cathédrale, il y a une grande statue de Mgr Ignace Bourget, et à l'intérieur, il y a ce beau tombeau, magnifique, dans la chapelle des évêques. On peut aller prier auprès de Mgr Ignace Bourget. Il y avait ses traits de caractère, mais c'était un homme d'une grande charité. Il faudra faire une autre émission, une émission sur Ignace Bourget. Il y a tellement d'émissions à faire sur des gens merveilleux dans notre Église. Tellement. Et ailleurs aussi, on peut en prendre aussi dans d'autres mouvements spirituels, évidemment. Et alors, Mme Gamelin manifeste aucun souci de sa personne, aucun doute intéressé sur l'avenir de son œuvre. À quoi servirait s'occuper d'elle-même, croit-elle? Elle a déjà emboîté le pas à l'évêque, en dissociant sa personne de son œuvre, par une espèce d'incorporation légale, par la donation pure et simple de tout ce qu'elle avait de propriété dans l'asile. Elle a tout donné à l'Église. Elle mendie en personne pour construire une maison destinée à une communauté inconnue et étrangère, que sont les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul. Est-ce qu'on va la taxer d'inconscience? C'est au plus profond de son incertitude qu'elle s'engage, par vœu privé finalement, au service des pauvres, mais pour toute la vie. Le 2 février 1842. Cet écrit mérite d'être reproduit, mais c'est un peu long. Disons qu'elle s'engage à vivre le reste de ses jours dans une continence parfaite, et deuxièmement, elle fait vœu d'être la servante des pauvres autant que ses forces pourront le permettre. Et troisièmement, elle s'engage à être vigilante dans ses conversations. Oh là là là. Et quatrièmement, d'écarter de ses habits et d'elle-même ce qui a l'air de luxe et de parure. Elle dit, je veux me donner à Dieu. Qu'il fasse ce qu'il voudra de moi. Je m'y soumets avec résignation. Alors voilà Mme Gamelin en profondeur, à ce moment critique de sa vie. Alors là, eh bien, on rassemble 7 jeunes filles qu'on va former en noviciat le 25 mars 1843 dans la maison de Mme Gamelin. Et Monseigneur leur donne un directeur et maître des novices en la personne de son vicaire général, M. Jean-Charles Prince, qui n'est pas toujours facile. Et Mme Gamelin n'a pour tâche que de les guider dans leurs travaux. Elle demeure à part. Celle qu'on appelle Madame, ou en confidence la séculière, puisqu'elle n'est pas entrée, elle est considérée presque comme une étrangère. Est-ce qu'elle a songé, cette bonne dame, Mme Gamelin, que ces jeunes filles vont prendre sous peu l'autorité, lui enlever ça des mains, et qu'elle deviendrait, elle, la fondatrice, une espèce de meuble embarrassant dans la maison qu'elle habite maintenant? Une novice, Mademoiselle Paiement, ne paraît pas à M. Prince avoir les dispositions exigées. Elle quitte la maison, le 8 juillet 1843. Alors Mme Gamelin, finalement, s'offre pour la remplacer. On réfléchit, on prie, la résolution est prise. Mais avant de la publier, Mgr Bourget impose à Mère Gamelin, à Mme Gamelin, un voyage aux États-Unis pour visiter les établissements des filles de la charité pour voir comment ça se passe. Et surtout pour obtenir d'elle les règles de Saint-Vincent-de-Paul qu'on avait pu avoir de France à cause de l'absence de contact. Ils étaient toujours en pays conquis. Le 8, on y était pourtant en 1843, 80 ans. Et le 8 octobre de cette année 1843, Mme Gamelin revêt finalement l'habit des novices et prend rang parmi elles sans distinction. Elle a 44 ans. Elle est réduite au statut de ses compagnes, beaucoup plus jeune. Et il y a la conduite difficile de M. Prince qui mène ça assez durement. Alors, il n'y a pas de corvée qu'elle n'accepte pas pour les pauvres. Même en dehors de l'asile, car elle étend tout son amour, sa sollicitude, non seulement aux femmes âgées, mais aux orphelins, aux prisonniers, aux mourants, mais aussi aux prêtres invalides. Les pauvres prêtres invalides qui n'ont plus rien. Elle a pratiqué le programme que Mgr Bourget résume en 1842. Écoutez ce que Mgr Bourget dit. C'est très beau, cet évêque avait des idées magnifiques. Essuyer les larmes des affligés, instruire les ignorants, prodiguer ses peines et ses travaux pour les infortunés, sans avoir égard aux plaintes injustes des pauvres et à la critique injurieuse de certains riches. Voilà ce que nous qualifions de charité héroïque. Que cet homme Ignace Bourget comprenait ce que c'était que de s'occuper des pauvres. Son exacte docilité à la conduite de son évêque fait de Madame Gamelin non seulement une servante des pauvres, mais une servante des pauvres dans l'Église, véritablement fondatrice des Sœurs de la Providence, sans avoir reçu le projet de les grouper, sans avoir écrit leur constitution, simplement parce qu'elle a été la première Sœur de la Providence, puis le modèle à reproduire par toutes, oui, à reproduire. Que font donc les jeunes femmes aujourd'hui? Elles pourraient reproduire ce modèle. Sœur de la Providence, ce nom est forgé magnifiquement par le peuple. Ça correspond à une réalité à la fois nouvelle, étrange. La prudence des siècles passés n'a pas jugé réaliste de lancer une opération même spirituelle sans une fondation. Il fallait fonder, c'est-à-dire avec des placements, des biens fonciers. C'était les rois souvent qui fondaient ça, les gens très riches, etc. Madame Gamelin n'avait pas compté avec son état de fortune pour modérer ses entreprises, elle les avait estimées à leur urgence, et était s'assurer, elle, que Dieu, qui est la Providence, fournirait les moyens. Et voilà la base économique sur laquelle est établie à la fois la communauté naissante, puis toute l'œuvre qui va s'étendre, cette œuvre de cette bienfaitrice universelle. Et l'avenir est laissé à la grâce de Dieu. Je vous donne un exemple. La nourriture. Mais les sœurs mangeaient la même que celle des vieilles, c'est-à-dire les restes d'un autel. Même le thé était le reste des sœurs de la congrégation, qu'on leur apportait dans de grandes chaudières. Au souper, c'était de la soupane de farine d'avoine avec de la mélasse. Celles qui n'étaient pas capables de faire tout le repas avec de la mélasse et de la soupane prenaient un peu de beurre en le ménageant. Et voilà le régime économique pratiqué au jour le jour, avec la seule assurance que la Providence pourvoirait. Madame Gamelin était la 14e entrée au noviciat le 8 octobre 1843. Il restait 13 novices à la veille de la première profession, et celle-ci a eu lieu le 29 mars 1844. C'est là qu'elle s'engage en la fête de Notre-Dame des Sept Douleurs, la patronne du nouvel institut. Et le même jour, Sœur Gamelin, elle s'appelle Sœur Gamelin à ce moment-là, première professe, rend authentique par sa signature le registre des délibérations du Conseil de la communauté de l'admission des novices. Et le lendemain, c'est la première assemblée de ce Conseil. Les sept professes élisent Sœur Gamelin comme supérieure et distribuent les autres offices. Et de ce moment, elle se fait appeler Mère Gamelin. Et Mgr Bourget avait en main un instrument qui assurait la perpétuité des œuvres charitables dont il pense offrir son église, de remplir son église diocésaine. Et dès le mandement d'institution des sœurs de charité, c'est comme ça qu'elles s'appelaient au début, sœurs de charité, c'est le nom officiel, il réglait que la maison de la Providence serait le centre de l'association diocésaine de charité. Les religieuses deviennent les administratrices de l'asile de Montréal pour les femmes âgées et infirmes. Elles partagent le beau titre de servante des pauvres qui est donné aux dames de l'association. Et dès ce moment s'établit entre les sœurs et les dames laïques une communauté de vue et d'action qui sera sans nuage. Et Mère Gamelin, jeune professe malgré son âge, reste toujours sous la tutelle attentive de ce supérieur ecclésiastique, Monsieur Prince. Il manque pas d'éprouver la supérieure. Elle avait laissé au mur, imaginez, au mur du parloir de l'asile, donc en plein cœur de Montréal, l'asile, les portraits de son mari et d'elle-même. Ben oui, elle l'aimait, son mari. Souvenir de ce mariage merveilleux. Alors le supérieur le lui reproche sévèrement et les portraits sont disparus au point qu'on ne les a jamais retrouvés. Un jour, Madame Gamelin sort un mouchoir de sa poche devant M. Prince. Son mouchoir est en soie et ce chanoine s'en offusque Il lui dit désormais du coton, d'un ton très sec. Comme quoi, on peut faire souffrir les autres même quand on est prêtre, et pourtant dévoué. C'est triste, hein? C'est triste, mon Dieu. Aucune institution ne s'occupait des pauvres malades mentaux à l'époque. Quand on était forcé d'en enfermer, on les envoyait à Québec. On demandait à en placer trois chez Mère Gamelin. Alors, elle en prend soin. Et puis, c'est de là que commence l'œuvre de la longue pointe. Et puis, c'était une année d'épreuve en 1847. Plusieurs navires avaient déversé sur les berges de Montréal des milliers d'immigrants irlandais. Avant qu'on pense de les arrêter en quarantaine à la Grosse-Île, le typhus fait rage parmi eux. On les entasse dans une voûte à la pointe Saint-Charles. Et la place manquant, ben, on bâtit 13 hangars qui ont été connus sous le nom de sheds. Et on y place des lits sur lesquels on étend des paillasses. C'est terrible. Il y avait même des Irlandais qu'on laissait dehors faute d'abri. On tirait les morts du milieu des malades pour les enterrer. Les sœurs grises ont été les premières à courir de l'hôpital général, qui était proche. Mais après quelques semaines, plusieurs religieuses étaient prostrées par la maladie. Il y en a qui sont mortes. Le 18 juin, l'évêque demande aux sœurs de la Providence, alors au nombre de 52, les novices et les postulantes comprises, si elles iraient bien au secours des sœurs grises pour s'occuper des Irlandais. Et toutes s'offrent, mais le médecin n'en choisit que 12 parmi les plus fortes, et Mgr Bourget ne permet pas à Mère Gamelin d'y aller. Les hospitalières de l'Hôtel-Dieu sont aussi appelées, et elles sont dispensées du cloître, car elles étaient cloîtrées. Et elles se portent au secours des malades le 2 juillet suivant, mais bientôt les sœurs grises et sœurs hospitalières se retirent, et les filles de Mère Gamelin sont les seules dans les sheds. Sans autre assistance, elles levaient, couchaient, lavaient, et changeaient les malades. La mort en moissonne jusqu'à 60 par jour. 34 sœurs de la Providence se dévouent près des malades entre le 26 juin et le 27 septembre. Et malgré les précautions prises pour éviter la contagion, 27 sœurs, novices et postulantes, ont contracté l'épidémie. 9 ont été administrées et 3 sont mortes. Et Mère Gamelin se voit dans l'obligation de diminuer graduellement le nombre de ses religieuses au shed, puis de les retirer. Et à la mort des parents, les enfants restaient abandonnés, hein? Alors, il a fallu s'occuper de ses enfants. Le 11 juillet, 6 grandes charrettes en amenaient 140 à 150, dont un né quelques heures auparavant. Imaginez! Alors, elle a travaillé pour s'occuper de ses petits garçons. Et ça a été le début de cette œuvre grandiose, où elles se sont occupées des enfants dans la mesure de leurs moyens, presque sans aide du gouvernement. Je vous ai parlé de tous ces événements tragiques afin que vous compreniez dans quel état Mère Gamelin a travaillé avec ses sœurs, les sœurs de la Providence. On imagine facilement toutes les improvisations nécessaires dans la pratique de cette charité fantastique. Ces femmes étaient bousculées. Ça dérangeait le cours régulier de leur vie communautaire. Dans une maison absolument surpeuplée, mal adaptée aux besoins de leur œuvre. Ils étaient voisins de l'évêché. Et Mgr Bourget, qui était un patron un peu souverain et exigeant, voyait bien ce qui s'y passait. Elle le craignait un peu. Ça n'a pas été facile, hein? L'évêque, elle avait la plus haute idée de la vie religieuse, une idée qui frise à certains moments l'idéalisme. Du moins, aux yeux de ceux qui ont à la vivre de l'intérieur, et cette inspiration voue à Mère Gamelin et à ses filles une direction animée d'un souffle puissant et profond de spiritualité, mais aussi certaines duretés de cet évêque. Elles sont effacées, ces femmes. Elles sont quand même recouvertes par cette grande et constante affection de leur évêque, qui est invariable jusqu'à sa mort. Mgr Bourget, tout audacieux qu'il a été, demeurait un homme angoissé. Et ces religieuses, pleines de charité, qu'il rêve pour assister les pauvres de son diocèse, il se demande si ces femmes sont à mesure de leur insuffler l'esprit qu'il perçoit à travers les récits de la vie et des œuvres de Saint-Vincent de Paul. Alors, Monseigneur s'est dépensé en personne lui-même au shed auprès des Irlandais tout l'été. C'était lui qui avait conduit à Mère Gamelin la caravane des petits garçons irlandais. C'est un évêque extraordinaire. Il avait lui-même pris la contagion. Des prêtres de l'évêché avaient contracté le typhus, eux autres aussi, puisqu'ils étaient allés les aider. Et son vicaire général même en est mort. Parlons donc contre le clergé. On dit que notre clergé d'autrefois était un clergé épouvantable. Regardons donc et faisons donc au moins le centième de ce qu'ils ont fait aujourd'hui avant de parler. Les rapports de la communauté des Sœurs de la Providence avec l'évêque continuaient dans la cordialité. Et le 3 avril 1848, Mère Gamelin a sollicité une visite pastorale qui n'avait pas eu lieu depuis 2 ans et demi à cause du voyage en Europe de l'évêque qui était allé là-bas en Europe, des épreuves du typhus et Mgr Bourget de l'accorde. Alors, il procède comme d'habitude. Et puis, il y a des disputes qui se font à l'intérieur de la communauté. Et Mère Gamelin sera un peu blessée de l'attitude de Monseigneur. Mais la compassion de Mère Gamelin a toujours été grande pour les malades mentaux dont elle s'occupe. C'est pour elle un objet privilégié. Faut pas oublier qu'elle avait reçu en héritage de son mari ce pauvre garçon malade, Daudet, qu'elle a gardé jusqu'à son dernier soupir, comme je vous ai dit. Jusqu'en 1833, bien, les aliénés de Montréal étaient enfermés dans des loges spéciales de l'hôpital général de Montréal. Et les sœurs grises, qui pouvaient plus les garder, bien, elles ont été obligées de les loger à la prison commune avec les détenus. Le gouvernement faisait rien. Tout tombait sur le dos de ces femmes consacrées. Et cela affligeait Mgr Bourget. Et en 1842, on a parlé de les séparer évidemment des prisonniers, tout en les gardant dans la prison. C'était tout ce qu'on pouvait faire. Et en 1844, on a demandé pour eux, par requête, un refuge particulier à Montréal. Mais en 1845, la décision a été prise de les envoyer à Beauport, près de Québec, et on a vu que Mère Gamelin en a recueilli dans la maison qui s'élevait dans le jardin de l'asile. Et Mgr Bourget exhortait, en 1846, le 19 mai, à poursuivre cette œuvre de dévouement. Mère Gamelin, pour mieux travailler à ce qu'on appelle Louis-Hippolyte Lafontaine aujourd'hui, bien, elle a fait un voyage aux États-Unis dans le but d'étudier ce qui se passait là-bas. On était au début du travail auprès des aliénés, des malades mentaux. On ne savait pas comment s'en occuper. Elle a étudié sur place. Elle n'a pas attendu les subventions publiques. Elle gardait déjà dans ses diverses maisons 39 aliénés. Elle y allait presque à tâtons. Mais que voulez-vous faire dans une époque pareille? Et aujourd'hui, on les blâme. Elles n'auront de secours des gouvernements que bien des dizaines d'années plus tard, seulement en 1873. Mère Gamelin n'avait pas une forte santé malgré son activité débordante. Et peut-être à cause d'elle, Mgr Bourget avait refusé de la laisser s'exposer aux atteintes du typhus en 47. Mais en juillet 1848, on avait servi du fromage gâté aux sœurs, s'empoisonner les 3/4 des sœurs pendant la retraite annuelle. Il a fallu cesser la retraite. C'était terrible. On était sans défense contre les contagions dans ce temps-là, qui était devenu mondial à cause du développement des communications. En 1849, le choléra se déclare à Montréal et une sœur en meurt à la prairie. Mère Gamelin demande de s'y dévouer elle-même directement, mais Mgr Bourget refuse ça. Ça n'a pas de sens. Mais les sœurs reprennent généreusement leur service en 1847, et Mère Gamelin emprunte de nouveau la maison de Mme Nolan, en fait un hôpital appelé Sainte-Camille. 138 malades en 3 mois y passent, dont plus de 60 y meurent. Dans la ville, il y a 523 morts, petite ville à l'époque, et encore une fois, l'orphelinat Saint-Jérôme-Émilien des Sœurs de la Providence recueille les orphelins laissés par les décès, et la maladie continue de serpenter dans la population, car 2 ans après le fréau, Mère Gamelin va en mourir, elle aussi. Elle vient de faire une deuxième visite en une seule année à ses sœurs de Sorel, puis elle visite celle de Sainte-Élisabeth du 10 au 12 septembre 1851, l'année de sa mort, quelques jours avant sa mort. Puis en partant, elle leur dit adieu, mes chères filles. Je vous vois pour la dernière fois. Et le 23 septembre 1851, elle s'éveille à 4 heures du matin. Elle se sent malade. Elle dit à sa compagne de chambre, « J'ai le choléra. je vais mourir. » Et elle demande d'être portée à l'infirmerie. C'était une émotion indescriptible dans la maison et au dehors. Monseigneur Prince la confesse. Monseigneur Bourget lui donne le Saint-Sacrement. Après les prières des agonisants, elle fait un effort pour dire quelques mots à son évêque qu'elle aime. Et c'est très beau. Écoutez bien ces paroles. Humilité. Simplicité. Charité. Oh, surtout, charité. Et c'est avec ce dernier mot que s'éteint Mère Émilie Tavernier-Gamelin. Et c'est là son testament. Quelle femme admirable! Elle possède un trait commun avec tous les autres serviteurs de Dieu qui sont nés dans notre pays. Elle ne montre aucun goût pour la réflexion spirituelle. Elle n'a pas laissé d'écrits fantastiques. C'est une femme active. Elle dit, « Je me suis rappelé, la vision que j'ai vue étant à l'agonie en 1838, j'ai vu la place qui m'était préparée dans le ciel et la Sainte Vierge me la montra et me dit que je ne mourrai pas de cette maladie-là. » Elle a dit, « J'ai vu mes enfants, qui semblaient vouloir m'attirer à eux, et mon époux, au nombre des bienheureux. » Elle n'a pas oublié sa famille, son mari, ses enfants. La spiritualité de Mère Gamelin ne s'est pas abreuvée, du moins directement, aux leçons des grands maîtres spirituels, non. Il y a une dévotion de Mère Gamelin qu'il faut détacher de toutes les autres, et c'est sa dévotion à Notre-Dame de cette douleur. Et ce qui frappe dans la vie de Mère Gamelin, c'est la continuité. Du début à la fin, elle est prise par la charité, qui est le renoncement et l'immolation. Oui, une immolation saine, sereine, joyeuse et qui apporte la joie, et dont l'ultime limite est la mort inutile et insensée à qui n'a pas la foi. C'est une mort vivifiante et qui garde Dieu au creux, comme celui qui est l'essentiel, le plus important, Dieu seul. Providence de Dieu, toi qui as fait don à Émilie Gamelin d'une charité toute compatissante pour tous ceux qui souffrent, souviens-toi de sa foi. Illumine de ta clarté la route de ceux qui t'implorent par son intercession. Et glorifie au plus tôt ta fidèle servante, la vénérable Émilie Gamelin. Amen. Dans la messe aujourd'hui, tous les textes s'appliquent très bien à Mère Gamelin. Soyez lumière aux yeux des hommes, devant le bien que vous accomplirez. Ils rendront gloire à Dieu votre Père. C'est l'Alléluia aujourd'hui. Tous les textes s'appliquent admirablement bien. Allez à la messe aujourd'hui, profitez-en et pensez à la vénérable Mère Gamelin.